La descendante de génération de débiles mentaux, incestueux, produit d'un sang vicié. Comment oses-tu traiter quelqu'un de barbare?
Barbare, oui.
Toi, la fille d'un joueur de flûte ivrogne que la corruption a placé sur le trône d'Égypte.
Mon prix était trop élevé, tu te rappelles?
Je suis plus que fatigué de la condescendance hautaine de vos misérables prétendants, paradant sur les ruines de vos gloires passées.
C'est l'avenir qui me concerne.
Dans ce cas, ne te mêle pas de mes affaires et fais ce que je te dis.
Faire ce que tu dis? À la lettre? Me soumettre tout comme si j'étais une de tes conquêtes?
Oui, ma conquête, si je décide de te considérer comme telle.
César!
Paul Martin.
L'Égypte, c'est un énorme morceau, c'est une richesse inouïe. C'est certainement le royaume hellénistique le plus riche de l'Antiquité. Et l'une des raisons principales pour lesquelles Rome n'y est pas intervenue, ou du moins tardivement et avec beaucoup de réticence, c'est que chaque fois que quelqu'un voulait y intervenir, il y avait une opposition politique à Rome, parce qu'on disait pourquoi lui et pas nous. Pompée est le premier à avoir véritablement réussi cette entreprise de clientela, si je puis dire, de réduction de l'Égypte en royaume client. Ça ne lui a d'ailleurs pas réussi, le pauvre, puisqu'il y est mort.
François Chameau.
Je pense qu'il n'est pas douteux que l'Égypte et l'Égypte aient été le plus important, le plus prospère de tous les royaumes hellénistiques, de toutes ces monarchies. Et d'autre part, l'Égypte a l'avantage, par rapport à d'autres régions de l'Orient grec, d'être séparé de ses voisins par des déserts. Vers l'ouest, il y a le Sahara, qui est vaste et pratiquement impossible à franchir par une armée. Et vers l'est, il y a très difficile région qui sépare la bouche pélusiaque du Nil de la zone de Gaza. Qui est une région extrêmement difficile à franchir parce qu'elle est coincée entre la Méditerranée d'une part et d'autre part des marais et des montagnes qui sont très proches de la Méditerranée. Donc c'est très facile à défendre et très difficile à attaquer. Il est vrai que dans la première moitié du 1er siècle avant notre ère, la monarchie lagide avait connu de grandes difficultés. Elle avait eu des souverains médiocres ou des souverains tarés. Ça, c'est connu, en particulier le propre père de Cléopâtre, Ptolémée XII, était un médiocre qui au lieu de gérer son royaume à l'époque où il s'y trouvait, car il en a été longtemps chassé, s'amusait à jouer de la flûte, ce qui fait qu'on l'avait surnommé le flûtiste, Aulette, Ptolémée XII Aulette. Eh bien, ce Ptolémée, malgré tout, disposait de moyens considérables et en particulier d'énormes ressources financières. Alors, tout cela rendait évidemment une conquête directe de l'Égypte très difficile. Les Romains n'y ont pas songé parce qu'ils ont été occupés ailleurs. Ils étaient occupés plus au nord et plus à l'est. Il leur a fallu conquérir toute l'Anatolie, qui était un pays fort riche, mais très divers, très vaste et très difficile à réduire sous leur domination. Il leur a fallu aussi conquérir les derniers restes du royaume des Séleucides, c'est-à-dire la région de la Syrie et de la Palestine. Tout cela a été très difficile et ils avaient laissé le plus gros morceau pour la fin. Ils ne l'ont abordé qu'au moment où se posent les problèmes entre Marc-Antoine et Auguste, c'est pas Octave plus exactement. Voilà, donc il y a eu pendant cette région très riche est restée marginale par rapport au projet des Romains.
Alors, quel va être le but de Jules César en ce qui concerne l'Égypte? Quelle va être sa politique?
En fait, Jules César arrive en Égypte un peu par hasard. Il est à la poursuite de Pompée. Pompée, après avoir hésité, finit par se décider à aller dans le royaume ami et client, comme je le disais tout à l'heure, qu'il connaît bien et qui est l'Égypte, pour y chercher des appuis afin de poursuivre éventuellement la lutte contre son rival après la défaite de Pharsale.
En 48, donc, avant Jésus-Christ.
C'est ça. Il arrive en Égypte et là, tout le monde connaît l'histoire, Corneille l'a immortalisé, il est lâchement assassiné par les sbires du propre frère et époux de Cléopâtre, le jeune Ptolémée XIII, mais qui, en fait, n'était qu'un pantin entre les mains de ses conseillers. C'était un gamin qui avait 10-12 ans. Il est donc assassiné au moment où il met le pied sur la terre d'Égypte, ou même dans le canot qui l'amène à terre.
Oui, parce qu'il pensait que Ptolémée XIII et Cléopâtre allaient le sauver dans la mesure où il avait protégé le père de Cléopâtre.
Il comptait se refaire en quelque sorte une force armée dans ce puissant royaume qui aurait constitué une base à partir de laquelle il aurait pu reprendre la lutte contre César. Donc César, qui après Pharsale le poursuit, arrive en Égypte pour découvrir que son rival, mais aussi son gendre, et son ancien gendre en tout cas, et un homme pour lequel il avait au demeurant beaucoup d'estime, vient d'être lâchement assassiné. Il se trouve immédiatement plongé dans le grave problème qui secoue l'Égypte à ce moment-là et qui est un différend entre Cléopâtre et son propre frère, ou plus exactement entre Cléopâtre et les conseillers de son frère. Cléopâtre a été chassée par son frère du trône, elle s'est réfugiée chez les Bédouins nomades, et César décide d'essayer de les réconcilier, ce qui montre bien qu'il n'avait pas d'opinion bien particulière sur la question. Il décide d'essayer de leur faire reprendre le trône en commun, et pour cela, il les convoque. Ce faisant, il ne fait que hériter en quelque sorte de la politique romaine en général, et plus particulièrement du rôle que jouait Pompée en tant que patron, en quelque sorte, de cet État client. Il les convoque. Cléopâtre arrive dans des conditions un peu rocambolesques que tout le monde connaît, dans une housse de literie, non pas dans un tapis d'ailleurs, mais dans une housse de literie. Et puis,
oui, parce qu'elle arrive secrètement, cachée.
Ben, elle arrive secrètement parce qu'elle a été bannie, elle a été chassée d'Alexandrie. C'est-à-dire que pour pouvoir se rendre à la convocation de César, elle est obligée de rentrer incognito dans son propre palais, ou du moins dans le palais qu'elle partage avec son frère. Et là, elle joue en quelque sorte sa dernière carte, hein, avec peu de chances d'ailleurs de réussir, a priori. Bon, il se passe que César tient la balance égale, hein, il n'y a pas de coup de foudre, il n'y a rien du tout. César tient la balance égale entre les deux partenaires, décide qu'ils vont régner ensemble, un banquet a lieu et apparemment tout va pour le mieux.
Il ne faut pas oublier, nous ne l'avons pas dit tout à l'heure, mais c'est un point qui peut surprendre. Le Ptolémée XIII et Cléopâtre étaient frères et sœurs, Cléopâtre étant l'aîné, mais ils étaient en même temps époux. N'est-ce pas? Ils étaient époux parce que, à la manière pharaonique, il était normal qu'il y ait un inceste royal. Ça ne choquait pas les Égyptiens, c'était tout à fait contraire aux usages grecs et naturellement aux usages de Rome, mais c'était le fait. Il n'y avait naturellement aucun sentiment particulier, au contraire, entre le frère et la sœur. Il est probable qu'ils se détestaient profondément. Et que Cléopâtre se sentait très supérieur à son jeune frère et époux, ce qui avait conduit à cette rupture qui fait que Cléopâtre avait été chassée. Et elle a donc dû revenir, et c'est là qu'elle a séduit le Romain, et elle y est parfaitement parvenue. Ils ont vécu, c'est vrai, pendant des mois, bloqués dans le palais royal d'Alexandrie, par la foule des rebelles, et il a fallu attendre l'arrivée d'une armée de secours romaine pour les libérer. D'ailleurs, César a eu bien du mal, il a dû déployer toutes ses ressources pour se défendre contre les attaques de cette rébellion. C'est le moment d'ailleurs où la bibliothèque d'Alexandrie a été brûlée, n'est-ce pas? Ça a été une grande catastrophe pour l'histoire de la culture.
C'est le début de ce que les historiens appellent depuis l'Antiquité la guerre d'Alexandrie, c'est-à-dire que César le conquérant se retrouve bêtement coincé dans le palais avec Cléopâtre pendant plusieurs mois. Cicéron jubile à Rome en disant ben, « ça y est, maintenant il est bien coincé là-bas, on n'est pas prêt de le voir arriver ». Tout le monde, enfin un certain nombre de gens, en tout cas les adversaires de César, espèrent secrètement qu'il va disparaître dans cette affaire. Et en fait, il réussira à s'en sortir, les détails importent peu, mais ce qui est important à mes yeux, c'est que pendant plusieurs mois, il va vivre au contact de Cléopâtre, dans tous les sens du terme. Pas seulement dans celui qu'on imagine sommairement, mais également parce qu'il va avoir accès, avec le meilleur des guides qui soit, à la magnifique administration de l'Égypte, administration lagide, qui elle-même a pris la succession de, la, de l'administration pharaonique. Et littéralement, César va là découvrir la manière dont on peut gérer de manière moderne un État puissant, centralisé.
Et c'est-à-dire que l'Égypte lagide était mieux gérée que,
ah, bien sûr.
Que Rome ?
Ah, bien sûr, ça semble pas une évidence. Le système républicain romain qui a fait la grandeur et la puissance et la force de Rome était devenu manifestement inadapté aux structures de la puissance romaine, de l'Empire romain. On ne peut plus gérer, si vous voulez, l'Empire romain avec quelque chose qui serait l'équivalent du conseil municipal de Sèvres-le-Château, quoi. C'est à peu près ça. Or, l'État romain fonctionne encore à la fois comme Clochemerle et comme une espèce de clan de mafieux avec des clans qui s'opposent, qui essayent de prendre la plus grosse part du gâteau. C'est pas comme ça qu'on gère rationnellement et intelligemment un État, c'est évident.
Oui, l'Empire romain est devenu immense, mais les institutions n'ont pas suivi. Non.
Oui, et puis surtout, il continue à être considéré par l'aristocratie républicaine romaine, qui tient les rênes du pouvoir, comme purement et simplement une proie qu'on doit se partager.
Donc, Jules César gagne cette fameuse guerre d'Alexandrie. Et à ce moment-là...
Enfin, il est dégagé, disons, hein, plutôt. Il gagnerait du tout, hein, en fait. Heureusement, il y a une flotte qui arrive à le dégager, c'est tout.
Mais à ce moment-là, il aurait pu annexer l'Égypte, là.
Et oui, mais c'est, ça
à nouveau, ça l'intéresse pas.
Ça l'intéressait pas. Ce qui l'intéressait, pour l'instant, de toute façon, c'était qu'il n'avait pas le temps. Il faut bien voir que César passe son temps à courir pour éteindre des foyers de guerre civile qui s'allument. Chaque fois qu'il en éteint un, il y en a un autre qui s'allume ailleurs. C'est un feu dans le midi. Hein.
Donc là encore, il n'a pas envie d'annexer l'Égypte, mais il a découvert la puissance de l'Égypte lagide.
Ah, je crois qu'il a découvert la puissance de l'Égypte lagide. Il a découvert la manière d'administrer un État moderne. Il a découvert surtout, je crois, moi personnellement, j'en suis persuadé en tout cas, mais... mon opinion, évidemment, n'engage que moi. Je crois que c'est là que son dessein change de nature et il me semble que c'est là que César commence à caresser l'idée de ressusciter ou recréer une forme de monarchie à Rome.
C'est pour ça que Cicéron lui en veut ?
Bien sûr. Cicéron, avec son flair de chien de garde de la République, a tout de suite senti le danger très, très vite.
Mais vous disiez que Jules César n'est pas resté longtemps en Égypte. Il est quand même resté...
Ah ben, il est resté plusieurs mois. Il est resté plusieurs mois, et ce qui montre bien qu'il y est resté au-delà de ce qui était nécessaire, c'est qu'une fois dégagé, il aurait pu repartir immédiatement à Rome. Or, il reste en Égypte. Il reste en Égypte, il remonte le Nil, c'est-à-dire il fait sa croisière sur le Nil, pas seulement par curiosité, parce que c'est vrai que c'est un pays fabuleux qui le demeure, mais aussi parce que c'est la première fois qu'un Romain a l'occasion de remonter le cours du Nil en direction de la Nubie, avec en plus le meilleur des guides, le même qu'il avait à l'intérieur de son palais, à savoir Cléopâtre. À ce moment-là, d'ailleurs, Cléopâtre est enceinte jusqu'aux dents, hein, parce qu'ils remontent, ils font la croisière au printemps et elle va accoucher au mois de juin.
Alors, vous n'êtes pas d'accord avec l'historien Pierre Grimal qui dit, lui, que... Jules César et Cléopâtre n'ont jamais été amoureux l'un de l'autre.
Bah, écoutez, bon, personne n'a tenu la chandelle, hein, ni Grimal, ni moi. Mais il y a une chose qui me paraît évidente, c'est que, premièrement, on n'a jamais douté de la paternité de César, à commencer par l'intéressé, jusqu'au moment où quelqu'un qui avait intérêt à jeter le doute sur cette question, à savoir Octave, ait commencé à en parler. Auparavant, lorsque Cicéron parle du fameux César, et qu'il parle du fils de Cléopâtre, et apparemment ça ne choque pas son interlocuteur. Lorsque on lui donne officiellement le nom de César ou de Césarion, lorsque Cléopâtre décide cela, personne ne proteste. Alors il faudrait considérer que César serait quand même le dernier des imbéciles que d'endosser la paternité de quelqu'un d'autre. Et d'autre part, je pose la question, de qui ? Si on répond de n'importe qui, on donne dans le porno ou dans le film X, c'est du délire, ça, c'est pas sérieux. Je crois que la solution la plus simple, c'est celle qui était adoptée déjà par tous les anciens, jusqu'à ce que Octave, parce qu'il y avait un intérêt, jette la suspicion sur la chose, à savoir que Césarion est bel et bien le fils de César.
Alors pourquoi César ne le mentionne pas dans son testament ?
Tout tout simplement parce que ça n'est pas les pauvres, entre guillemets, biens de César qui pouvaient intéresser quelqu'un qui allait hériter du fabuleux royaume d'Égypte. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse de quelques biens de César? Ce n'est pas le problème. L'héritier du royaume d'Égypte, enfin, on ne va pas lui faire l'aumône d'un legs testamentaire, c'est ridicule.
D'autre part, il n'aurait pas été très habile de la part de César, dans un testament qui était destiné au peuple romain, avant tout, de faire figurer le fils d'une étrangère, n'est-ce pas? Ça, qui n'aurait pas été son fils légitime. Ça aurait certainement choqué considérablement la société romaine. Et il était trop habile pour la choquer.
César ne mange jamais de femmes.
Quoi?
Mais il mange les jeunes filles et les chats. Tu es une naïve petite fille et tu es la descendante de la chatte noire. Tu es à la fois jeune fille et chatte.
Me mangera-t-il?
Ah oui, à moins que tu lui prouves que tu es une femme.
Oh, tu dois être un grand sorcier pour faire de moi une femme. Es-tu un grand sorcier?
Quelle que soit ta frayeur, même si César est terrible, tu dois le confronter comme une femme courageuse et une grande reine. N'aie pas peur. S'il t'estime capable de régner, il t'accueillera sur son trône, à ses côtés, et il fera de toi le véritable souverain d'Égypte.
Je ferai tout ce que tu voudras. Je serai obéissante. Je serai ton esclave. Je suis une vraie reine, enfin, une vraie reine véritable. Cléopâtre, la reine. Oh, je t'aime pour m'avoir fait reine.
Mais les reines n'aiment que les rois.
Je ferai roi les hommes que j'aime. Je te ferai roi. J'aurai beaucoup de jeunes rois, aux bras forts et ronds. Et lorsque j'en serai lasse, je les fouetterai à mort. Mais toi, tu seras toujours mon roi, mon sage, gentil et bon vieux roi.
Ah, mes rides, et mon cœur d'enfant. Tu seras la plus dangereuse des conquêtes de César.
Georges Bernard Shaw, César et Cléopâtre, 1901.
Quand Cléopâtre est invitée à Rome par César, alors c'est en tant qu'otage
ou... Ah, c'est en tant qu'otage, ça je crois que c'est vrai. Mais c'est, d'abord, il faut me rappeler que c'est un usage diplomatique courant dans l'Antiquité. C'est normal de que quelqu'un soit, qu'un chef étranger puisse être retenu éventuellement à Rome pendant quelques temps ou plusieurs années, le temps de s'assurer de sa loyauté et de sa fidélité. Cela dit, c'est un otage qui est traité d'une manière fabuleuse. César l'installe dans ses meubles, à lui, César, dans sa villa du Trastevere. Il y a des fêtes somptueuses qui sont données. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que cet otage n'est pas traité en otage.
Cette idée que Cléopâtre est un otage ne me paraît pas ressortir des textes. Aucun texte ne permet de penser que c'est comme otage que la reine d'Égypte a été amené par César à Rome. Il n'y avait pas de raison pour qu'il le fît, étant donné qu'il n'avait pas été en conflit avec elle, bien au contraire. Elle l'a suivi, probablement parce qu'il l'a invité et qu'il avait envie de la garder avec lui. Ce qui me paraît d'ailleurs démontrer d'une manière éclatante ce que, comme le disait Paul Martin à très juste raison, toute l'Antiquité a cru, sauf une petite partie des propagandistes d'Octave, c'est-à-dire qu'il y a eu entre César et Cléopâtre une véritable idylle qui a probablement pris naissance dès le début, dès leur première relation. Sur ce point, nous sommes tout de même informés assez bien par un texte qui est, je l'entends bien, un texte poétique, donc qui a pu subir une certaine élaboration de la part du poète. C'est la Pharsale de Lucain qui décrit avec beaucoup de détails cette première rencontre de Cléopâtre et de César et qui marque très fortement le fait que César a été, si j'ose me permettre ce mot familier, embobiné par Cléopâtre dès le premier jour. Elle a joué de sa féminité, d'ailleurs elle l'a fait pendant toute sa vie, c'est parfaitement légitime d'ailleurs, c'était un des éléments de sa politique, ce qui ne l'empêchait pas à l'occasion d'être sensible à la qualité des gens qu'elle voulait séduire, et en l'occurrence on comprend très bien que César, qui était beaucoup plus âgé qu'elle, il avait 32 ans de plus qu'elle, mais c'était un homme extrêmement séduisant. C'était un très grand séducteur. Il était un peu chauve, bien entendu, mais à l'âge qu'il avait en 48, c'est-à-dire à 52 ans, un homme est encore un homme, et un homme peut séduire une femme jeune, une femme jeune comme l'était à ce moment-là Cléopâtre, mais une femme remarquablement intelligente et cultivée qui ne pouvait qu'être sensible à l'extraordinaire séduction intellectuelle et humaine qui émanait de César, que tout le monde a reconnu, même ses adversaires. Je tiens pour ma part César comme l'un des deux grands hommes que l'Antiquité a connus, le premier étant Alexandre et le second étant César. Et je crois que César a été hanté pendant une grande partie de sa vie, en tout cas pendant toute la fin de sa vie, par le mythe d'Alexandre. Il a eu envie de reconstituer l'Empire d'Alexandre.
Est-ce que d'une certaine manière, Cléopâtre n'a pas été fatale à César, parce que c'est peut-être à cause d'elle que l'idée de monarchie a progressé dans son esprit?
Oui, c'est certainement à cause d'elle que l'idée de monarchie a progressé dans son esprit, c'est vrai. Mais je ne crois pas qu'on puisse dire que ça lui a été fatal. D'abord parce que l'expérience monarchique à Rome, ce n'est pas la première fois qu'il y en avait une. Sylla avait parfaitement régné à Rome.
Il n'avait pas le titre de roi, c'était un dictateur.
Non, il n'avait pas le titre, mais il en avait absolument tous les pouvoirs. Et c'était un pouvoir monarchique au sens premier du terme, c'est-à-dire pouvoir d'un seul. Il a parfaitement régné, entre guillemets, si vous voulez mettre des guillemets. Il a abdiqué son pouvoir pour des raisons qui ne nous intéressent pas ici et qui sont demeurant obscures. Et il est mort tranquillement dans son lit. C'est-à-dire que ça n'était pas a priori dangereux. Je crois que ce qui est important dans le cas de Cléopâtre, c'est qu'elle a fait prendre conscience à César moins de la nécessité de prendre le pouvoir, parce que ça, il n'avait pas besoin d'elle pour y penser, mais de la nécessité de prendre le pouvoir pour en faire quelque chose d'intéressant. Ce qui était déjà l'idée de Sylla, même si elle était différente. C'est-à-dire l'idée de réformer profondément les institutions de l'État dont César, au moins, était intimement persuadé qu'elle était complètement inadaptée. Alors, ça ne lui a pas été fatal parce que, en réalité, il a été victime d'un mot, c'est-à-dire du mot « roi », « rex ». Il y a des mots qui tuent. Le mot « rex » a tué à Rome, il a continué à tuer. Vous savez, quand on mettait ça quand on jetait ça à la figure de quelqu'un, c'était une marque au fer rouge qui le désignait immédiatement comme un homme à abattre. Mais avec César, on est arrivé au point limite de la chose. C'est-à-dire qu'il était évident
que le suivant réussirait.
Oui. Je crois que c'était...
Il a préparé la route à Octave.
Je crois que le seul tort qu'a eu César, ça n'est pas d'écouter Cléopâtre, c'est d'aller trop vite. Le problème, c'est qu'il avait 60 ans et qu'avec l'espérance de vie de l'époque, s'il ne se pressait pas un peu, eh bien, il risquait de ne jamais voir réaliser son destin. Alors, à se presser un peu trop, c'est vrai qu'il a attiré les poignards comme le paratonnerre attire la foudre. Mais on ne peut pas dire que ce soit Cléopâtre qui soit responsable de la mort de César. Sur rire.
C'était Cléopâtre de l'Histoire et la Légende par Marie-France Hazard avec la participation de Paul Martin, auteur de Antoine et Cléopâtre aux éditions Albin Michel, et François Chamoux, auteur de Marc-Antoine aux éditions Artaud. Texte lu par Evelyne Guimara et Alain Massé. Chargée de réalisation, Christine Robert. Demain, Antoine et Lorient Romain. À noter dans vos programmes ce matin sur France Culture, dans quelques instants, juste après le journal, la matinée des autres, le Hagakure ou l'honneur des samouraïs. Vous écoutez France Culture, il est 9h. Le journal, Pascal Dervieux, bonjour.
Bonjour. L'embargo pétrolier militaire contre Haïti est entré en vigueur ce matin, peu avant 5h heure française. Des navires américains et canadiens